Bonsoir. La CENI a annoncé hier que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces sera organisée le 26 mars prochain. La centrale électorale indique que les candidats ont jusqu'au 20 février pour déposer leur dossier de candidature. Les résultats de cette élection doivent être publiés le 12 avril. Selon le président de la CENI, son institution a reçu un engagement du gouvernement pour financer cette élection. Quelle lecture faire de cette annonce? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois David Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, parti de l'opposition. Honorable Jolino, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Hiron.
Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELITE. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Monsieur Bonceau, bonsoir.
Bonsoir, cher ami Alain.
Nous vous avons annoncé Patrick Thierry-Henri Kakwata, député national de la majorité présidentielle et président du mouvement des réformateurs libéraux MRL, mais pour des raisons de communication de ligne téléphonique, on n'a pas pu le joindre. Nous avons plutôt Joseph Bangakia. Bonsoir, M. Bangakia.
Bonsoir, M. Alain Hiron.
Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Nouveau Républicain pour la Justice, Énergie en sigle. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La Commission électorale nationale indépendante fixe l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces au 26 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé son président ce mercredi 10 février 2016 à Kinshasa. Corneille Nanga a fait cette déclaration lors de la cérémonie du lancement d'appel d'offres internationales pour l'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs. Paul Matendo pour les détails.
Pour Corneille Nanga, la CENI vient de faire sauter deux verrous qui bloquaient les processus électoraux en RDC.
La CENI a reçu un engagement ferme du gouvernement pour le financement des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. C'était le premier facteur bloquant. Les règlements intérieurs de 21 assemblées provinciales sont jugés conformes à la Constitution. Ces deux verrous levés, en conséquence, la CENI vient de décider de l'organisation de ces élections.
Quant à la question du respect du délai constitutionnel, les présidents de la CENI évoquent un préalable majeur, la révision du fichier électoral.
La révision du fichier fait partie intégrante d'un calendrier. Ce sont des activités qui se succèdent et qui sont telles que vous ne ferez pas l'activité suivante si vous n'avez pas terminé la première. Et le point de départ, c'est le fichier.
Pour ce faire, le numéro 1 de la CENI demande à toutes les parties prenantes de cesser d'exercer toute pression sur son institution.
Que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis politiques, laissez-nous tranquilles pour jouer ce rôle-là. Que ce soit les partenaires, laissez la CENI parce qu'elle a un mandat constitutionnel.
À propos de l'appel d'offres international du kit d'enrôlement, Corneille Nanga a présenté à la presse les spécimens d'une nouvelle carte d'électeur.
Merci Paul Matendo. Joseph Bangakia, vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Nouveau Républicain pour la Justice Énergie en sigle. Comment vous avez reçu cette annonce de la CENI?
Je vous remercie Alain Hirong. Premièrement, c'était le soulagement. Soulagement de voir le processus électoral enfin repartir de l'avant, débloquer. Et ça, c'est un point positif. Car quelles que soient les réclamations des uns et des autres, le fait que la dynamique se mette en marche devrait normalement satisfaire toutes les parties prenantes au processus électoral, qu'on soit de la majorité de l'opposition ou de la société civile ou indépendant. Et à part cela, je dois saluer l'intervention claire, brillante du président, du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, qui, par des termes clairs, nous a exposé la situation. En fait, hier, la population a compris ce qu'il faut pour que le processus électoral, tant souhaité par tout le monde, même par toute la majorité, puisse nous amener à toutes les échéances, y compris l'échéance présidentielle.
Alors, entre-temps, il y a des observateurs qui se posent la question de savoir à quoi aurait servi la nomination des commissaires spéciaux.
Il est vrai que l'autorité de l'État, notamment le maintien de l'ordre public, ne tolère pas le vide. C'est vrai qu'on peut discuter sur le temps qu'a pris la nomination de ces commissaires spéciaux. Mais le fait est que ils ont rempli le rôle pour lequel ils étaient désignés. Nous saluons le retour à la normale tel qu'annoncé par le calendrier électoral publié hier par le président de la CENI.
Alors il y a par exemple le député national Henri Thomas Lokondo qui a fait remarquer qu'il y a un problème d'incohérence et de rationalisation dans cette décision de la CENI qui prévoit que les nouveaux bureaux des nouvelles provinces qui ne sont pas encore effectifs le seront le 12 mars alors que la rentrée parlementaire est fixée au 30 mars. Est-ce que la CENI n'aurait-elle pas mieux fait d'attendre carrément la rentrée parlementaire pour fixer l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs? N'y a-t-il pas un problème de cohérence, comme il le dit?
Mais premièrement, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire des assemblées provinciales que pour des besoins, notamment d'élection des autorités provinciales, les sessions soient convoquées de manière extraordinaire, car cela aussi est prévu. Hein. Mais dans tous les cas, c'est comme lorsque nous allons discuter ici de ce que nous appelons tous les délais constitutionnels, nous sommes arrivés à un moment où nous devons être réalistes. Et on doit l'être le plus tôt possible. Le plus tôt qu'on sera réaliste, le plus tôt nous aurons bien cerné la problématique et donc nous aurons des élections que nous appelons de tous nos voeux.
Alors, la CENI affirme qu'elle publie ce calendrier partiel parce que le gouvernement a donné des garanties de financement de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Dans cette logique, on a l'impression qu'elle dépendra toujours du bien vouloir du gouvernement pour planifier les élections, alors qu'on sait que juridiquement, c'est son calendrier qui est l'élément contraignant des dotations du gouvernement.
Vous devez savoir une chose, dans tous les pays du monde, les citoyens s'organisent, se mobilisent pour que leur gouvernement soit attentif à son action. Cela se fait dans tous les pays du monde. Nous sommes arrivés à un stade où il faut effectivement que nous soyons très exigeants envers notre gouvernement afin qu'il ait la pression nécessaire, même si cela est son rôle, mais ça se passe toujours comme cela. La responsabilité politique est telle que la pression publique, la pression citoyenne est un moteur d'action. Donc c'est le rôle de tout le monde, de la majorité comme de l'opposition, comme de la société civile. Nous devons demander à notre gouvernement vraiment de mettre les moyens qu'il faut à la disposition de la commission électorale indépendante qui a dit que si les moyens sont conséquents, Les délais qu'elle annonce peuvent être réduits sensiblement.
Alors, la CENI annonce que les candidats ont jusqu'au 20 février pour déposer leur dossier de candidature. Certains observateurs estiment que ce délai est trop court.
Rappelez-vous que le calendrier électoral, notamment sur l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, n'était que suspendu. Si ma mémoire est bonne, pratiquement plus de 70 candidatures étaient enregistrées. Il y avait en fait les candidatures de tout le monde, sauf celles de quelques partis et regroupements politiques. Donc nous continuons un processus qui était largement entamé. Donc en vérité, le gros des candidatures est déjà là. Il ne reste qu'au retardataire de se hâter pour que cela soit complet.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que si les députés provinciaux peuvent élire des nouveaux gouverneurs, c'est qu'ils peuvent aussi élire les sénateurs? Pourquoi, par exemple, la CENI, selon ses observateurs, n'a-t-elle pas programmé à la même occasion l'élection des sénateurs pour faire l'économie des frais?
Ah, là, c'est une question mais que vous posez qui mérite attention, mais il faut pas d'amalgame. Ces gouverneurs ne seront pas élus pour 5 ans, tandis que les sénateurs seront élus pour 5 ans.
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, parce qu'un gouverneur est élu pour 5 ans?
Il n'y a pas de problème, car on peut bel et bien notamment même pour les députés nationaux provinciaux, à l'occasion des partiels, on peut élire pour quelques années. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème est que nous sommes en face de mandats et des calendriers qui sont en dichotomie, qui sont en déphasage. Il faut que nous puissions revenir à un niveau où tous les mandats commencent au même moment et se terminent au même moment.
Un cycle normal.
Un cycle normal.
Voilà. David Jolino Makelele, vous êtes député provincial et porte-parole de l'UNC, parti de l'opposition. Comment vous avez accueilli cette annonce de la CENI?
Laissez-moi d'abord exprimer ma joie du Congolais de savoir que notre équipe avait gagné. Je n'avais pas eu cette occasion-là. Je félicite les Léopards qui, par ailleurs, ont été privés du bonheur de vivre en bain de foule par ce pouvoir aux allures sécuritaires exagérées. Et pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Sinon que c'est un tête-à-queue. Un tête-à-queue. Ce gouvernement et même la CENI, ils nous ont annoncé, rappelez-vous, que ce gouvernement n'avait pas 2 millions de dollars pour organiser les élections du gouvernement. 2 millions. Alors, je me demande si ce n'est pas à la suite d'une sorte de gêne de voir ce gouvernement étaler sous la place publique sa manière d'être généreux à l'égard de certains de nos des fils du Congo à des niveaux peut-être exorbitants en termes financiers qui a fait qu'ils se disent non, ça risque de nous poser problème si on par ici on s'est dépensé 60 à 100 millions de dollars pour faire des gestes de générosité et que par ailleurs on n'arrive pas à trouver 2 millions, je crois qu'il se trouverait des Congolais qui se poseraient des questions. Ceci étant dit, revenons aux choses un peu plus sérieuses. Pourquoi cette élection n'a pas eu lieu? Mais tout le monde a pu comprendre que c'est parce que le gouvernement savait qu'il allait se faire harakiri cette majorité et qu'il n'avait aucune maîtrise de ce qu'allaient être les candidats qui étaient en train de postuler. Mais surtout, ce gouvernement, c'est un véritable camouflet que le peuple, d'une manière ou d'une autre, inflige à ce gouvernement dans la mesure où c'est une sorte de raisonnement par absurde. Ils viennent de se rendre compte, eux-mêmes, que ce qu'ils ont fait en créant un monstre juridique, à savoir le fameux commissaire, comment on les appelle encore,
commissaire spéciaux,
c'était un véritable monstre juridique et il fallait vite l'extirper du cadre juridique congolais. Et donc, c'est en train d'être fait. Et donc, quelque part, on peut dire que la CENI commence un peu à s'aviser, mais la CENI l'a dit, si elle est parvenue à prendre cette initiative, c'est parce que le gouvernement a pris l'option, si j'ose dire, de débloquer un peu tout ce qu'il y a comme financement. Et comme vous le savez, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a tout misé sur la ruse. La ruse et des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir, à savoir... Je ne touche pas à la Constitution. Ça, c'est la dernière trouvaille. Je ne touche pas à la Constitution. Je ne modifie pas la Constitution. Mais je joue sur le délai. Je fais en sorte que j'asphyxie la CENI financièrement en manière telle que la CENI ne puisse rien organiser et jusqu'à ce que les gens constatent que les délais constitutionnels sont impartis, sont épuisés et quitte à demander à la CENI de consulter la Cour constitutionnelle qui lui aurait remis un avis bien tranché, bien orienté et en développant une théorie de la force majeure qui ne serait pas conforme aux principes juridiques généralement acceptés. Donc ça, c'est sur ce plan-là. Nous disons déjà que d'une part, nous nous réjouissons parce que c'est un monstre juridique qu'on va abattre. Et deuxièmement, nous disons, ça, c'est toujours le gouvernement. Tout ce retard, c'est toujours ce gouvernement. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir avec des données chiffrées qui ne laissent aucun doute sur les intentions qui ont habité ce gouvernement.
Alors, vous êtes député provincial. Je posais tout à l'heure la question à Joseph Bangakia sur l'observation de l'honorable Henri Thomas Lokondo quant à l'incohérence, à un problème de rationalité par rapport aux dates qui sont prévues, l'élection des bureaux des nouvelles provinces le 12, et puis l'élection des vice-gouverneurs, la rentrée parlementaire vient d'abord, et puis l'élection intervient avant, la rentrée après. Vous êtes député provincial. Comment vous abordez ça?
Mais nous sommes dans un état de non-droit, bien organisé alors. Parce que on va rigoler, J'imagine que si ces députés sont convoqués, encore faudrait-il rappeler que ces assemblées ont été suspendues. Donc il faudra bien qu'on lève cette suspension. Et il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un pour convoquer ces sessions. Alors ce sera qui? À l'initiative de quelle autorité on va convoquer cette session extraordinaire? Il faut bien qu'on se pose les bonnes questions. Alors, deuxièmement, lorsque ces députés provinciaux auront à se réunir, ils seront en présence de candidats qui vont naturellement faire campagne, qui auront fait campagne et qui solliciteront leur suffrage. Mais ces députés provinciaux qui auraient été convoqués éventuellement par les commissaires à l'initiative, en session extraordinaire, à l'initiative d'un commissaire, spécial. Je ne sais pas comment ils vont réagir, mais moi, si j'étais député provincial, franchement, je n'irais pas. Parce que cette convocation serait attachée d'illégalité. Et donc, nous sommes là.
Ils n'ont pas qualité, selon vous.
Ils n'ont pas qualité. On a beau tourner la constitution que j'ai ici, vous ne verrez nulle part ces instances-là être habilitées à faire cela.
Merci. Jérôme Bonsoir, vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Comment vous analysez cette annonce de la CENI?
Merci, cher ami Alain. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer mon co-débatteur de gauche, honorable David Jolino, et celui de droite, Monsieur Joseph. Deux annonces importantes de la Commission électorale nationale indépendante en date du 10 février a beaucoup attiré notre attention. Parce que cette annonce, c'est le résultat de la tripartite qui a réuni en date du jeudi 28 janvier 2016 le gouvernement de la République, la Commission électorale indépendante et les partenaires techniques et financiers que nous appelons la communauté internationale. De cette tripartite, l'option a été levée qu'on puisse faire recourir à l'achat ou bien à l'appel d'offres du fichier électoral pour l'achat des kits. Là, nous réjouissons au niveau de AETA et au niveau de la LINELIT parce que ça a rejoint nos différentes analyses techniques liées au poste électoral et nos différentes études. Mais maintenant, l'option est levée. Et c'est à la date d'hier, du 10, que nous mettons maintenant le baromètre électoral en marche. L'appel d'offres, c'est une décision politique. Mais au niveau des techniques, quelles sont les activités qui entrent en compte pour arriver à la construction du fichier électoral, pour arriver à l'enrôlement, à faire l'enrôlement général de la population, les nouveaux majeurs et les autres électeurs congolais, pour faire face à ce moment-là, nous aurons à avoir 19 000 sans circonscription électorale. Nous aurons un corps électoral de 40 900 135 000 électeurs. Ça, c'est le chiffre CENI. À ce moment-là, nous aurons 19 000 sans circonscription pour 2016. Tandis qu'en 2011, on avait 169 circonscriptions pour plus de 32 millions de droits. Maintenant, pour plus de 32 millions d'électeurs. Et que faire aujourd'hui? Quelles sont les activités qui entrent en compte pour arriver à la mise en œuvre du fichier électoral? Vous comprendrez que l'appel d'offres international a une durée chronométrée. Les uns parlent de 4 mois, les autres de 5 mois. Et si vous mettez que le notre baromètre qui part du 10 février, pour arriver à 4 mois, au 10 juin, on va faire cette opération. Et nous allons passer à une autre opération qui est celle de exécution maintenant et commande de livraison qui va partir du 10 juillet au 10 septembre 2016. Et maintenant, il y aura maintenant plan de rotation des avions pour nous amener 38 200 kits. À son temps, on avait plus de 10 000 kits qu'on avait commandés. Ça nous a donné 65 rotations d'avions. Mais maintenant, nous envisageons plus de 120 rotations d'avions. Et nous aurons une autre opération importante, c'est le déploiement des kits, qui va aller du 10 septembre au 10 novembre 2016. Et l'autre opération, c'est la formation des agents. Nous aurons 95 500 agents électoraux qui doivent être formés pour tester ce type.
Alors, par rapport à tous ces éléments que vous relevez, Jérôme Bonsoir, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça nous permettrait de rester dans le délai constitutionnel?
Mais c'est pour vous dire que nous continuons avec les opérations liées au fichier électoral. Il y a l'audit du fichier électoral qui va prendre aussi 10 juillet au 10 novembre 2000. Et l'autre opération, actualisation du fichier, qui va aller du 10 novembre au 10 décembre 2017, nous sommes déjà au 2017 avec l'opération du fichier électoral, sans tenir compte d'autres opérations. D'autres opérations. Vous voyez, ce sont ces éléments-là. S'il arrivait que la classe politique puisse lever l'option pour dire que nous voulons faire les élections à tout prix, dans le délai constitutionnel, sans tenir compte des aléas techniques, d'accord, on y va aux élections à tout prix. Mais si on tient compte de ces opérations liées à la construction du nouveau fichier électoral, à la mise en œuvre de ce nouveau fichier électoral, parce que les titres qu'on doit importer, il faut voir l'intérieur, c'est là où j'invite la classe politique congolaise, l'opposition et la majorité, d'avoir un œil regardant dans le cahier de charge de la CENI. Car on a fait appel à quel genre de technologie des récentes générations. Si on va recourir à une technologie de deuxième génération ou troisième génération pour faire l'enrôlement des électeurs, ça va nous prendre énormément du temps. Mais si on va recourir à la récente technologie des appareils qu'on va utiliser, ça va écourter le temps. À ce moment-là, vous verrez que nous allons avoir de sérieux problèmes pour déployer ce matériel dans 26 provinces, dans 145 territoires, dans 95 villes, 450 secteurs, 264
pays.
Et autant, mais vous voyez, c'est tout ça, c'est du temps. Maintenant, que faire?
Mais Jérôme Bonceau, on se souvient par exemple qu'en 2005, la société belge ZTS a livré à la CEI 10 000 kits en 8 semaines. 2500 kits ont été livrés 4 semaines après la commande et le reste dans les 4 semaines qui suivaient. Donc il y a moyen quand même de rester dans le temps malgré ça.
Oui, ça dépend de qui est le soumissionnaire. Quelle est sa capacité de produire? Parce qu'ici, on ne va pas recourir aux anciens kits parce que ces anciens kits ont montré leurs limites. C'était des kits qui étaient déjà introduits dans les réseaux mafieux, où certains citoyens africains, non congolais, étaient détenteurs de cartes d'électeurs. Et aussi, nous sommes dit, quel type de carte d'électeurs allons-nous imprimer cette fois-ci? Ne serait-il pas mieux de recourir à l'impression avec de nouvelles machines, de nouvelles cartes d'électeurs sécurisées, afin de donner la chance, afin de contenir l'électorat? Parce que l'électorat estimé par la CENI pour 2016 ou après 2016 est évalué à plus de 40 millions d'électeurs. 40 901 135 électeurs. Mais si nous allons pour produire 53 177 476 cartes d'électeurs, mais il faut avoir quel type de machine? Parce que les machines de ZTS ont montré leurs limites. Dans certains pays africains, on avait porté plainte contre ZTS. Ils ont fait au Gabon et d'autres pays africains. Et pourquoi? C'est pourquoi nous disons que cette fois-ci, que la CENI puisse voir quels sont les constructeurs capables de nous mettre ça à temps réel. Et si nous avons ça, mais que ça puisse, je le répète, que ça puisse répondre à la nouvelle avancée technologique pour faire ce travail dans nos villages où il n'y a pas du courant, où il n'y a pas de lumière.
Alors là, c'est par rapport à l'appel d'offres et par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs.
L'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans notre pays, ça vient en grand retard. Et ça doit s'inscrire dans une optique des élections atypiques. Parce que c'est pourquoi les gens ont difficile à comprendre. Comment vous-même vous avez posé la question, cher ami Joseph et honorable, pourquoi ne pas faire au même moment l'élection des sénateurs? Ça ne pouvait pas se faire. Ce sont des élections atypiques. Et si nous mettons ensemble en tête demain cette approche que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur sont des élections atypiques qui viennent avec un grand retard parce que l'opinion congolaise, les partis prenants pour ces électeurs congolais font des élections une question d'actualité ponctuelle. Or, les élections doivent s'inscrire dans une logique d'activité permanente. Et aujourd'hui, tout le monde est surpris.
Merci.
De dire que nous devons aller aux élections de délai sans savoir comment y arriver.
Merci. Joseph Bangakia, il y a Florian Bissi, moi qui dit, quel député de quelle assemblée provinciale vont élire ces gouverneurs? À ce que je sache, aucune nouvelle assemblée de nouvelle province n'est opérationnelle à ce jour, après que leur activité ait été suspendue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Bien. Il faut commencer par dire, parce que c'est important de le préciser, que ces élections, les élections de ces gouverneurs et vice-gouverneurs telles qu'annoncées hier, est consécutive au démembrement de quelques provinces. Donc, c'est l'opération de démembrement de provinces qui a placé les pouvoirs publics dans l'obligation de doter ces nouvelles provinces d'autorité provinciale.
C'est ce que l'honorable Jolinot appelait un monstre juridique.
Le monstre juridique, d'après l'honorable Jolino, c'était plutôt la nomination des commissaires spéciaux sur base de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le débat est ouvert. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles de qu'un recours, mais le débat, il existe. Effectivement, la procédure a été contestée. Et je suis heureux que nous revenions à la normale, je l'ai dit. Mais concernant la question de Bertrand Bissimo.
Florian Bissimo.
Les assemblées provinciales n'ont pas vu leurs activités suspendues. Il y a eu, je crois, un problème de communication. Il y a certaines assemblées qui sont allées vite en besogne, notamment l'assemblée provinciale du Bas-Uele, en procédant à l'élection des bureaux, du bureau définitif, sans avoir eu au préalable leur règlement intérieur annoncé conforme par la Cour constitutionnelle à la Constitution. Et le président de la centrale électorale l'a répété hier, c'est le fait d'attendre que toutes les 21 assemblées provinciales voient leur règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution qui est en partie responsable du retard enregistré. Et cela a été le cas il y a une semaine. Les deux dernières assemblées provinciales ont vu leur règlement intérieur déclaré conforme, ce qui ouvre maintenant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Alors, le président de la CENI a demandé aux acteurs politiques, majorité et opposition, de ne pas mettre la CENI sous pression. L'honorable Makelele a dit tout à l'heure que le gouvernement procédait par l'asphyxie financière de la CENI pour mettre la tasse politique devant un fait accompli.
Oui, la vérité est que la CENI subit des pressions de toutes parts. Du pouvoir du gouvernement, du fait de l'irrégularité, de la modicité des décaissements financiers, c'est une forme de pression tout à fait inacceptable et il faut que le gouvernement s'honore en donnant à la CENI des moyens conséquents en temps voulu. L'opposition qui fait des projets de calendrier, chose qui n'est pas de sa prérogative, c'est une forme de pression sur la Commission électorale nationale indépendante, de pression tout aussi intolérable. Et je dois répéter ici que la CENI, c'est un condensé de diversité de notre pays. Il y a la majorité, l'opposition et la société civile, car souvent on a tendance à pointer du doigt la CENI comme un organe de la majorité présidentielle. Nous n'avons jamais vu des éminents membres de l'opposition, notamment les membres de l'UNC, de l'UDPS, du MLC, qui sont à la Commission électorale nationale indépendante. Jamais désavouer ce que dit leur président. Jamais se retirer pour contester ce qui se fait. Preuve que la majorité, l'opposition et la société civile qui est réunie au sein de la CENI parlent le même langage, le langage de la Commission électorale nationale indépendante.
Honorable Jolino, il y a Jean-Tchani Mwanakalala qui dit « Pourquoi aller toujours de mal en pis? Les députés provinciaux n'ont plus le mandat du peuple, même si le faux coûte que coûte, les gouverneurs élus auront un mandat de quelle durée constitutionnellement? Et si ça n'énerve pas notre loi fondamentale, pourquoi ne pas renouveler en même temps le Sénat ?»
Oui, mais pour renouveler le Sénat, encore faudrait-il que ce soit les députés qui soient en situation de le faire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, j'allais dire, la confiance de la population à travers des élections et qu'ils soient légitimés, pour utiliser une expression un peu plus appropriée, qu'ils soient légitimés par le peuple en vue de faire cela. Or, actuellement, ceux qui sont, dans notre cas, ils ont été légitimés il y a quelque temps déjà. Et donc, on n'est même pas sûr que tous nous représentons encore valablement la population. Donc, c'est une question, j'allais presque dire, d'éthique politique. Et nous pensons que là, il y a lieu, parce que nous sommes des républicains, à la différence des gens de la majorité qui sont qui se sont obstinés à nous fabriquer des monstres juridiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des républicains. C'est-à-dire lorsque la Constitution dit que le mandat du gouverneur est de 5 ans, et puis renouvelable une seule fois, pour que ce mandat soit renouvelé, il faut qu'il y ait des députés qui votent, et si ces députés, naturellement, ils ne sont pas remplacés par la faute de qui ? Toujours par la faute du gouvernement, qui ne trouve pas l'argent pour donner à la CENI afin que celle-ci puisse organiser. C'est depuis longtemps, cette situation de glissement des députés pour monsieur. C'est de la responsabilité pure et simple, toujours du gouvernement, le même. Donc, qui ne tient pas à ce que le processus puisse aller dans le bon sens. Et donc, c'est tout à fait normal que dans le cas d'espèce, se saisissant un tout petit peu, la CENI organise cette élection qui amènera les gouverneurs à être élus pour une durée correspondant à celle qui aurait dû être celle normale des gouverneurs qui ont été élus au cours du mandat passé.
Alors, vous avez suivi Jérôme Bonsoir qui demandait à la classe politique d'ouvrir l'œil et le bon, parce qu'avec toutes les démonstrations qu'il a effectuées ici, il a démontré que rien qu'en partant de l'appel d'offres pour la révision du fichier électoral, on était déjà en 2017. Est-ce que vous en êtes conscient?
Nous avons dit d'abord, il faut le dire clairement, tout ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui, c'est une volonté politique de la majorité kabyliste au pouvoir. Ils ont tout fait sciemment. Les chiffres ici qui viennent du ministère du Budget, je vous donne à titre d'exemple ce qui a été prévu pour la CENI, ce qui a été octroyé par le Parlement, par le peuple à la CENI, à l'occasion du budget 2015, 233 milliards 599 etc., etc. milliards, et de cela on lui a, écoutez bien, on a offert à la CENI seulement 66 millions de dollars. Ça, c'est en 2015. Et en 2014, je vais être bref, en 2014, c'est la même chose. En 2014, on offre à la CENI, le Parlement accepte d'allouer à la CENI un montant de 249 milliards et la CENI n'obtient du gouvernement que 38 milliards. Je peux aller jusqu'à 2013-2012. C'est la volonté manifeste d'étouffer la démocratie. Et si vous vouliez savoir pour quelles raisons, parce qu'on peut nous dire qu'il n'y a effectivement pas d'argent, mais moi je peux vous dire que l'argent, il y en avait, puisque dans le même temps, le budget de la présidence de la République fait des bons extraordinaires, de même que celui de la primature, des dépassements de plus de 200%. Merci. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'argent pour donner à la CENI, mais ils l'ont fait exprès, ils le feront toujours exprès, leur volonté étant toujours de faire en sorte que le processus soit bloqué afin qu'on dialogue, qu'on trouve une transition. Merci. Et qu'il demeure au pouvoir.
Jérôme Bonsoir, il y a Dexon Assani qui nous écrit de Kalima au Maniema qui dit « Je me pose la question de savoir si la classe politique congolaise avait bien compris la notion du réaménagement du calendrier électoral, d'autant plus qu'on n'avait pas seulement besoin de connaître la date de l'élection des gouverneurs et leurs vices, mais on avait plutôt besoin de connaître tout le cycle électoral en RDC. Quand le gouvernement accepte de financer cette échéance, dans quelle rubrique va-t-il comptabiliser l'enveloppe dans les 500 millions de dollars promis, ou bien c'est juste une annexe parce que le grand favori, c'est lui?
Oui, notre ami Assani a raison, parce que nous nous trouvons dans un cycle électoral anormal, où on était à faire de surplace, parce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faudrait recommencer, reconstituer le cycle électoral? Parce qu'il y a autant de ratés, tout en sachant que tout ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de courir derrière le temps, et le temps qui n'est plus avec nous. Nous l'avons dit lors de nos émissions précédentes, la débâcle électorale est liée au déficit de planification qui ne tient pas compte des paramètres facteurs temps et paramètres moyens financiers. Et nous avons vu pendant le temps, tout ce temps, que la CENI ne possédait ni le moyen financier, ni le temps, parce que le temps avait déjà tourné le dos à la CENI. Et maintenant, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un bricolage électoral. Un bricolage électoral pour arriver au cycle normal. Est-ce que la classe politique a compris ça? L'opposition et la majorité, tout le monde est en train de se tirailler. Et aujourd'hui, nous venons de mettre le doigt sur le bouton, sur le baromètre électoral. Aujourd'hui, c'est-à-dire le 10 février, que la CENI a lancé cette opération du fichier électoral. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons nous engager pour voir comment on peut raccourcir la durée même de passation de marché, la durée même de commandes de matériel. Nous voulons voir dans quelle mesure nous allons faire l'enrôlement. Parce que en nous référant aux outils, aux kits qu'on va utiliser, qui vont être moins coûteux, ça va nous prendre à peu près 6 mois. Mais si la classe politique, s'il y a la volonté politique, doublée d'une volonté technique pour dire est-ce qu'on peut mettre davantage la main à la poche pour recourir à la nouvelle technologie, à la récente technologie, où on peut aller dans nos villages faire ce travail et on peut écouter les durées. Mais si le débat politique continue sans une solution à l'immédiat, nous allons nous trouver dos au mur et nous serons incapables de répondre à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. À ce moment-là, chacun de nous va se jeter la responsabilité de cette débâcle éventuelle électorale. Ça doit être rejeté sur le parti prenant au processus électoral et ça doit être rejeté sur toutes les 3 parties qui sont concernées à financer la CENI, le gouvernement de la République à travers le billet, le partenaire technique et financier de la communauté internationale, dont elle est qui proviendrait de confessions religieuses, de mouvements associatifs, de partis politiques, de sensibiliser la mobilisation de fonds. À ce moment-là, nous allons nous partager la responsabilité. Mais quelle est la capacité de l'homme congolais face à ce défi? Parce que nous avons un défi d'acceptation des résultats. Si les élections ne sont pas organisées dans la transparence, si les élections n'ont pas rencontré le résultat de la vérité des urnes, et nous allons nous amener encore dans des querelles. À ce moment-là, quoi bon ça servir l'organisation des élections? C'est ce que nous avons fait en 2011. Le 28 novembre 2011, nous avons eu des délais constitutionnels devant nous. Nous avons fait l'élection et les résultats ont été contestés. Et est-ce que nous devons aller de contestation en contestation? Quand est-ce que nous allons aussi sortir modèle? Comme aujourd'hui, nous sommes une grande nation en matière de football. Nous sommes une grande nation en musique. Pourquoi ne pas aussi être une grande nation en matière d'organisation des élections? Merci. Pour donner une leçon à d'autres pays.
Joseph Mangakia, il y a Jean-Pierre Mandé-Anika depuis Wamba, en province de Haut-Touélé, qui dit: nous savons que les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux. Dans certaines provinces, nous avons des députés provinciaux hors mandat et d'autres n'ont pas des députés provinciaux. Ces dysfonctionnements organisés par la CENI et le gouvernement profitent seulement à ceux qui sont déterminés à gérer le pays d'une manière anticonstitutionnelle.
Premièrement, il faut dire à Jean-Pierre que les députés provinciaux qui ont été élus en fin 2006 représentent le peuple. Ils le représentent tant qu'on n'aura pas organisé, et on doit le faire le plus tôt possible, d'autres élections des députés provinciaux. Et donc, ils ont qualité, parfaitement qualité, pour élire les gouverneurs. Ces gouverneurs seront élus le temps que le recensement prenne fin et que nous ayons des élections provinciales. Cela, dans tous les cas de figure, est bien mieux, de mon point de vue et du point de vue de plusieurs personnes, que la nomination que nous avons connue des commissaires spéciaux. Et il faut aussi dire que On ne peut pas être fier du chaos électoral ambiant que nous avons. C'est vrai que le gouvernement porte la première responsabilité, le Parlement aussi, qui est composé de l'opposition et de la majorité. La majorité peut-être pour avoir été complaisante envers son gouvernement, de l'opposition aussi, pour avoir eu une complaisance certaine, elle aurait pu initier des actions qui auraient pu pousser le gouvernement à mieux agir, à plus agir.
Une forme de complicité.
Une vraie complicité, il faut le dire.
Voilà, Jolino Makelele, il y a Rossi Pumbulu des Kikwit qui dit: la CENI doit écouter les uns les autres pour éviter d'être alignée à tout moment comme proche de la majorité. Comment les partis politiques vont déposer les candidatures avec le dédoublement de ceux-ci? Quel dossier et de quel parti retenir? Pour quelles raisons organiser ces élections lorsqu'on sait que certains acteurs politiques réclament des élections à tous les niveaux?
Et s'agissant du dédoublement des partis politiques, ça c'est encore une trouvaille de cette majorité au pouvoir. C'est une trouvaille. C'est comme dirait Coluche, on n'a pas fini d'en trouver. Parce que quand il y a une qui est trouvée, on en trouve encore une autre après. Donc c'est une trouvaille, ils veulent que les partis de l'opposition soient émiettés. Mais ça, c'est une parenthèse. Je reprends un peu ce que notre ami Bangakia disait tout à l'heure, que la responsabilité de tout le monde, de l'opposition, qui aurait pu faire en sorte que les choses bougent un peu plus, amener le gouvernement à changer ou à obtenir des résultats. Mais vous avez une majorité qui est mécanique à l'Assemblée. Mécanique. Comment voulez-vous faire passer, lorsque vous avez reçu à Kingakati un mot d'ordre, comment voulez-vous aller à l'encontre? Il y en a qui sont allés à l'encontre des mots d'ordre de Kingakati, nous savons où ils se trouvent aujourd'hui. Donc, c'est clair, nous sommes dans un régime démocratique, je le conçois aussi. L'opposition est là pour faire une opposition constructive, mais il y a une majorité qui a été décidée par la population, qui est là pour la durée convenue dans la Constitution. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que la minorité ou l'opposition peut faire basculer la majorité. Sinon, si tel était le cas, vous voyez tout ce que nous faisons avec « Touche pas à ma Constitution » depuis longtemps, et maintenant on est à Yébéla, tout ça, mais on ne suit pas. On ne suit pas parce qu'il y a une volonté politique de se maintenir. Mais surtout, on dit que nous avons fait pression sur la CENI pour le calendrier électoral. Mais nous disons non. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, démocratie dit pluralité d'opinion. Et donc, nous sommes censés apporter notre contribution à la CENI. Merci. Mais la CENI gardant son indépendance. Et d'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui,
en guise de conclusion,
rapidement, c'est que ce qui est en train de faire la CENI, c'est la démonstration de ce que le dialogue n'a pas lieu d'être.
Merci.
Et que c'est vrai, le vrai dialogue doit se passer au sein de la CENI. Merci. Comme la dynamique de l'opposition l'a toujours soutenu.
Jérôme Bonceau, le processus électoral est relancé avec l'élection des gouverneurs et leurs vices. Comment entrevoyez-vous son avenir?
L'avenir, moi je crois que l'avenir sera quand on va relancer le processus électoral congolais dans sa globalité. Ça, ce sont des activités ponctuelles et partielles qui n'auront même pas un impact, qui ne vont même pas impacter le reste du processus électoral. Parce que nous souhaitions que le processus électoral puisse être, l'option politique puisse être levée par autant de cette scrutin que nous avons. Nous allons commencer par les locales pour monter, ou bien nous allons commencer par le présidentiel en respectant l'exigence constitutionnelle, le délai constitutionnel. Et c'est cette option qui serait l'autre. Une fois cette option levée, à ce moment-là, nous allons suivre, nous allons faire le chronogramme des scrutins à organiser. Mais ça, ce sont des faits vraiment ponctuels. S'il était demandé, parce que c'est un avis de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de débat, mais s'il nous était demandé de donner un avis parfois technique ou un avis là-dessus, on déconseillerait de ne pas le faire. Parce que ça prendra combien de temps? Ça va résoudre quel problème? Le problème pour nous, c'est voir comment nous pouvons relancer notre processus électoral qui est dans l'impasse totale, qui est au bord de la dérive. Comment nous devons le relancer pour que nous puissions suivre maintenant le cycle normal de l'élection? À ce moment-là, demain ou après-demain, les histoires de CENI ne vont plus exister. Il y aura des gouvernements qui ont la confiance de la population. À ce moment-là, l'organisation des élections serait confiée au ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, c'est un gouvernement légitime qui a la confiance de tout le monde. Et l'histoire de CENI, je crois que ça pourrait prendre fin.
Alors, vous parlez de l'option politique. Jolino Makelele dit que ce que la CENI fait déjà montre que le dialogue n'a pas sa raison d'être.
Nous pensons que la CENI est là jusque-là. La CENI, à partir de quand se va organiser l'élection présidentielle, il nous laisse dans l'affaire du fichier électoral. Nous avons vu que la dernière activité liée à l'actualisation de la cartographie des opérations électorales est prévue entre 10 novembre 2017 au 10 décembre 2017.
En conclusion,
nous disons que la classe politique congolaise, toute tendance confondue, majorité opposition, doit se mettre à dégager un consensus politique et constitutionnel pour arriver à organiser les élections apaisées.
Joseph Bangakia, quelle est la voie de sortie pour vous pour relancer le processus électoral?
Disons que moi j'appelle déjà les députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs le mois prochain de faire un bon choix. Car la défiance entre le peuple et les élites politiques commence par là. La classe politique perd la confiance de la population en posant des actes qui ne sont pas républicains. Choisissez des bons gouverneurs, qui vont servir votre province et votre peuple. Deuxièmement, je soutiens l'indépendance de la CENI. Il faut que la CENI soit indépendante de l'opposition, de la majorité, des partenaires étrangers, mais que la CENI soit consciente que le peuple attend d'elle des résultats en des temps convenus. Et enfin, effectivement, il faut que la classe politique, dans le respect de la Constitution, mais dans un esprit de consensus, arrive à faire en sorte que le processus électoral soit débloqué. Merci. Pour que nous ayons des bonnes élections le plus tôt possible.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.